Bonjour à toutes et tous, c'est Léa de Canal B. Il est midi 16 et vous êtes en direct de l'émission 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a
les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Nous sommes mercredi 10 juin, ou jeudi 11 juin, si vous nous écoutez en rediff. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Aujourd'hui en plateau, je suis accompagnée d'Alex et de Nina et c'est Pierre-Maël qui assure la technique. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Alors l'interview du jour, elle est consacrée à la formation cuisinée durable. C'est un chantier école innovant porté par le centre de formation Greta CFA, le lycée des métiers Louis Guilloux et la basse-cour à Rennes. Manon, de la rédaction de Canal B, s'est entretenue à ce sujet avec Maud qui est chargée de projet social et citoyen à la basse-cour. Et en dernière partie d'émission, Nina nous parlera d'une exposition qui débute demain aux Ateliers du Vent.
Oui, l'exposition s'appelle Hors Sol. Elle allie art plastique, expérience agricole low-tech et projection de films. Je vous en parle en fin d'émission.
Alex, tu voulais nous parler d'un phénomène médiatique en lien avec une actu récente.
Effectivement. Est-ce que vous connaissez l'effet Streisand ?
Je crois en avoir déjà entendu parler, mais est-ce que tu peux nous expliquer ?
Bien sûr. C'est une sorte d'effet boomerang qui met en lumière des informations qui n'attirent pas l'attention au premier abord. Cela se produit quand on cherche à censurer une information. Le public est intrigué par la volonté de la faire disparaître et la pousse donc sur le devant de la scène. C'est né d'une affaire concernant Barbara Streisand, actrice et chanteuse américaine, et elle a été théorisée par Mick Masnick, blogueur américain, 2 ans plus tard. C'est de cet effet dont je vais vous parler aujourd'hui, et plus particulièrement de son application récente dans les actualités politiques. Je vous propose d'essayer de comprendre comment une plainte a transformé un simple clip musical en phénomène viral. Notre affaire, elle commence le 25 mai 2026 sur YouTube. Le rappeur Soli y publie sa dernière création, un facho chaos. Sur la vignette du clip, 3 personnes arborant des masques à l'effigie de 3 personnalités politiques d'extrême droite. On y voit Éric Zemmour, fondateur de Reconquête, Marine Le Pen, députée du RN, et Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Ce qu'on remarque, c'est le traitement qui leur est infligé. Roué de coups, attaché et défiguré au marqueur, le ton est posé. Soli apparaît lui-même et apporte fièrement le drapeau français pendant que la musique déclare « Un bon raciste, c'est un raciste blotti dans son cercueil ».
Mais du coup, quel rapport avec l'effet Streisand ?
Eh bien, dès le lendemain, c'est sur X, anciennement Twitter, que Jordan Bardella prend lui-même la parole. En usant de sa répartie légendaire, il cherche à tacler Soli, tout en se demandant probablement d'où lui vient toute cette énergie. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs crient alors à l'appel à la haine ou à l'incitation au terrorisme. Et paf, effet Streisand. Au moment du tweet de Jordan Bardella, le clip plafonne à 500 vues. Avec la prise de parole du candidat du RN, il explose en popularité et le clip affiche désormais plus de 400 000 vues. Beaucoup se rangent alors derrière l'artiste au nom de la liberté d'expression, dont YouTube qui répond à BFM TV qu'ils n'enlèveront pas le clip de leur plateforme. Alors concluons avec une phrase que j'apprécie tout particulièrement. Dans l'ère numérique, la censure n'éteint pas un contenu, elle l'illumine.
Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'énième tentative du RN de se faire passer, encore une fois, pour des victimes.
We'll be right back.
On vient d'écouter We Got to Get Moist du groupe normand Mikko Mökko. Et le titre vient de l'album Tit for Tat, sorti en mai dernier. Il figure dans la playlist des nouveautés musicales de Canal B. Et le groupe est en tournée dans le nord-ouest de la France cet été. N'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux pour aller éventuellement voir un concert. Vous êtes toujours dans l'émission 3 en 1 de Canal B sur le 94 FM. Et tout de suite, l'interview du jour sur le chantier école Cuisine et Durable avec Maud, chargée de projet social à la basse-cour. Et merci à Manon pour la réalisation.
Pour la deuxième année consécutive, la basse-cour, le Greta CFA et le lycée des métiers Louis Guillou organisent ensemble le chantier école cuisine durable. Cette formation de 7 semaines est pensée pour une transition vers les métiers de la restauration et de l'alimentation durable. Et pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Maud, chargée de projet social à la basse-cour, ce fameux tiers-lieu agriculturel à la Prévallée. Maud, bonjour.
Bonjour.
On te reçoit pour parler du chantier école cuisine durable dont vous avez lancé la seconde édition le 18 mai dernier. Pour commencer, comment s'est passé le lancement ?
Alors c'était une météo terrible pour lancer un chantier cuisine, parce qu'à la basse-cour on est beaucoup sur des espaces extérieurs. Donc c'était un super lancement avec des plaids et de la tisane. Le groupe était présent, on avait les 12 personnes qui étaient là le jour J et c'était vraiment une super première journée. Donc le lancement s'est très bien passé.
Qu'est-ce que vous avez fait pour inaugurer tout ça ?
Alors la première journée de ce chantier a eu lieu à la basse-cour. Donc en fait, il y a eu toute une première journée de découverte du lieu. Sur les 12 participants, il y en avait certains qui n'étaient jamais venus. Donc en fait, découvrir les espaces, où est-ce qu'ils vont cuisiner, le matériel qu'ils vont pouvoir utiliser, le jardin des 1000 pas. On va les recueillir et récolter les légumes qu'on va ensuite transformer en atelier cuisine. Donc il y avait un peu toute cette période de découverte. Et après, l'après-midi, c'était plutôt une animation autour de l'empreinte carbone des aliments. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion autour de l'alimentation durable ? Et donc, on a pu, au fil de la journée, avoir poser une définition collective de ce que c'est l'alimentation durable.
Cette année, vous avez organisé un processus de recrutement assez spécial, puisque le BAM a organisé des ateliers cuisine, des événements comme des visites de ferme et a repéré 12 personnes à intégrer à la formation. Pourquoi est-ce que vous avez procédé de cette façon en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré pour faire ça ?
Alors, c'est cette idée que l'une des manières de dépasser le frein à l'accès à la formation, à l'accès aux institutions, c'est d'accompagner un peu, j'ai envie de dire, marche par marche. Donc en fait, faire déjà l'effort pour des personnes qui ne sont pas à l'aise en groupe ou quoi, de venir à un atelier cuisine au BAM, de rencontrer les personnes qui travaillent au BAM sur une session de 3 heures, ça rassure. Ça donne envie peut-être de revenir le lendemain. Et du coup, tu reviens le lendemain et tu te rends compte que tu es capable de faire 2 jours en collectif. Et peut-être qu'après, au bout des 2 semaines de recrutement au BAM, tu as participé à 5 demi-journées, on va dire. Tu as rencontré les futurs formateurs que tu auras, donc en l'occurrence moi, sur les 2 mois suivants. Et du coup, ça te fait peut-être un peu moins peur de signer pour 2 mois. Et une fois que tu as fait les 2 mois, et ben peut-être que tu te rends compte qu'un CAP d'un an, c'est peut-être pas la mer à boire et que tu es capable de le faire. Et en fait, s'il n'y avait pas cette approche un peu en escalier, ou en poupée russe, on peut prendre plein de métaphores, mais on n'aurait pas ce côté, on crée de la confiance, on rassure et on accompagne. Et ça, c'est hyper important. De se dire que des gens, si tu leur dis bah, en fait t'as envie d'avoir un projet dans la cuisine, bah, la seule option c'est le CAP cuisine qui dure 1 an en apprentissage, en alternance. Ça fait hyper peur, on sait pas par quel bout le prendre. Alors qu'en fait, si en amont t'as eu 2 mois de formation un peu on va dire sur mesure avec un rythme plus lent, que t'as rencontré ton futur formateur potentiellement, que t'es allé visiter des restos à Rennes, que t'as rencontré potentiellement des futurs patrons, bah déjà ça dédramatise un peu le truc et ça le rend aussi vachement plus concret en fait pour les gens et du coup ça facilite la projection.
Et du coup cette formation concrètement qu'est-ce qu'elle apporte aux participants et participantes majoritairement ?
Avec le recul que j'ai vu que c'est la deuxième édition, je dirais qu'il y a des personnes qui vont venir chercher plutôt une reprise de confiance en soi. Ça peut être suite à un burn-out au niveau du travail qui a du coup mis les personnes dans des situations de plus être en capacité de se remobiliser dans un projet professionnel. Ça peut être lié à une phobie scolaire, un arrêt brutal d'études et du coup besoin de reprendre un peu confiance dans ses capacités à être dans un groupe, à suivre une journée, à suivre un planning, indépendamment du coup de la thématique qu'on aborde, qui est la question de l'alimentation durable. Donc ça peut être un premier type de personne qui participe. Et il y a un deuxième public qui va plutôt être des personnes qui ont envie d'avoir un projet dans la restauration, mais qui ne savent pas quoi exactement, qui ne savent pas trop par quelle boule prendre. Et du coup, en fait, ces 2 mois permettent de se questionner, de découvrir. En fait, un peu comme un dispositif pour adultes d'orientation qu'on aurait un peu loupé au lycée. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as eu beaucoup d'orientation et que tu as vraiment, enfin, que t'as trouvé que c'était bien fait. Je pense qu'on pourrait aller vraiment plus loin dans comment est-ce qu'on accompagne les gens dans leur orientation professionnelle. Et du coup, ce projet-là, il a un peu cette idée de se dire, bon, on reprend le temps d'aller rencontrer des professionnels, de leur poser des questions et du coup de s'orienter, de savoir est-ce qu'après cette formation-là, j'ai envie de faire un CAP cuisine ? Est-ce que j'ai envie de faire un CAP boulangerie ? Est-ce que j'ai envie d'ouvrir mon food truck ? Est-ce que j'ai envie en fait, de faire une formation agricole ? C'est plutôt donner aux gens l'occasion d'explorer un projet professionnel, d'explorer des goûts. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment cuisiner. Mais de là à en faire un métier, c'est chouette d'avoir des espaces où on peut se questionner là-dessus.
Et du coup, en fait, c'est un peu une expérimentation, mais vraiment thématique par rapport à justement ce qu'on peut avoir au lycée, etc.
Exactement.
Là, c'est vraiment thématique.
Ouais.
Et au niveau des participants et les participantes, tu disais, les profils, ils sont vraiment variés. Il peut y avoir à la fois des gens qui sortent d'études ou qui ont arrêté les études et à la fois des personnes qui sont presque retraitées.
Ouais, c'est ça. On a vraiment, sur les deux promos, si je peux parler comme ça, on a effectivement une grande amplitude d'âge. L'année dernière, c'était de 18 à 58 et cette année, c'est de 17 à 59, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est archi chouette, c'est le côté... on a une grande diversité culturelle aussi. On a beaucoup de personnes qui sont installées en France depuis quelques années, qui ont envie de se remettre dans un parcours un peu plus institutionnel. Donc on a beaucoup de nationalités différentes. On a quand même une majorité de femmes. La cuisine, l'alimentation, c'est des thématiques qui sont socialement situées d'un point de vue du genre. Et après, on a aussi des personnes qui n'ont jamais été en études.
Et du coup, tous ensemble, vous avez organisé une saison expérimentale, un test grandeur nature l'année dernière. Et c'était quoi vos conclusions et vos axes d'amélioration ?
Ouais, il y en a plein. Comme c'était la première fois qu'on portait un projet comme ça l'année dernière, on a testé plein de trucs. Il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses un peu moins. L'une des difficultés l'année dernière à laquelle on s'est frotté, c'était justement cette grande diversité de langues parlées, mais aussi du coup de niveau de français. Donc on a dû pas mal s'adapter, passer beaucoup par le français simplifié, parce que le vocabulaire de la cuisine, il est très spécifique. Un mot entre la façon dont tu l'appelles quand tu l'utilises chez toi et quand tu l'utilises dans une cuisine professionnelle, c'est pas du tout la même chose. Et donc cette année, on a créé un lexique illustré en plusieurs langues qu'on a distribué aux participants au début de formation, chose qu'on n'avait pas fait l'année dernière. Donc ça, c'est une amélioration qu'on a faite. Sur le test grandeur nature dont tu parlais, ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. De se dire que cuisiner pour 5, c'est pas la même chose que de cuisiner pour 100. Et c'est pas la même approche de la cuisine, on cuisine pas du tout pareil. Et donc ça, c'était super. L'année dernière, on a participé à la fête du quartier de Clenay. Et donc, il a fallu dresser un buffet pour 120 personnes. Donc ça, c'était 2 jours assez intenses de cuisine avec le centre social de Clenay. Cette année, on voit un petit peu moins grand. 120, c'était beaucoup l'année dernière. Ça fait des très grosses journées. Donc cette année, on part plutôt sur un format 60 couverts. Et ce sera le vendredi 3 juillet à la basse-cour. Donc les stagiaires vont pouvoir concevoir le buffet, entrée, plat, dessert, réfléchir aux recettes, tenir un budget et surtout préparer, servir, dresser.
Je ne sais pas vous, mais moi ça m'ouvre l'appétit cet échange. On fait une pause musicale avec le duo occitan Cocagna que j'affectionne énormément. Duré Samsir, c'est le titre du premier single de leur 3e album, Flamme Folklore. Now prada recebo le nega, eribi tu men pasti se, now prada recebo le nega, eribi tu men pasti sa, way prada recebo le nega, eribi tu men pasti se, way prada recebo le nega, eribi tu men pasti sa. Merda prometu de relanza, macronomica, tout que sa bute franza, petrochimica, tout azimut besilanza, pedagogiques. L'usabilis qui finançant gala tactica. Set prader svevo le nega, eribi tu men pasti se. Set prader svevo le nega, eribi tu men pasti sa. Seis prader svevo le nega, eribi tu men pasti se. Seis prader svevo le nega, eribi tu men pasti sa. Menti nu se pa mei do, menti nu se pa mei po.
Menti nous c'est pas mes dos. Sing prada los bebo le nega, e de bitumen pas te seyen. Sing prada los bebo le nega, e de bitumen pas te sa. Quatre prada los bebo le nega, e de bitumen pas te seyen. Quatre prada los bebo le nega, e de bitumen pas te sa.
Trauga usted nos plugs e plugues de la xenaride de la lengue de estresa. Que caurutos usines e beres pruesas que las aventiza nos arribe da grande vitesse.
Tres praderos de bolo nega, e de bitumen paste seien. Tres praderos de bolo nega, e de bitumen paste sa. Dios praderos de bolo nega, e de bitumen paste seien. Dios praderos de bolo nega, e de bitumen paste sa.
C'était Duré Samsir de Cocagna, les deux femmes occitanes et profondément féministes joueront à Rennes le samedi 1er août sur le parvis de la mairie dans le cadre du festival Transat en ville. Le chantier école cuisinée durable, c'est une formation de 7 semaines qui accueille 12 stagiaires éloignés de l'emploi et souvent issus de quartiers défavorisés de la ville de Rennes. Tout de suite, on retrouve Maude, chargée de projet de social au sein de la basse-cour, pour la seconde partie de l'entretien mené par Manon.
Est-ce que tu as des nouvelles des stagiaires des années ? Et ont-ils réussi à trouver en fait un emploi dans le domaine ou continuer en tout cas dans ce domaine ?
Oui, il y en a plusieurs qui ont trouvé du boulot. Je pense à Ridvan qui se reconnaîtra, qui a notamment réussi à trouver un travail dans un resto à Rennes. Et qui a aussi vu surtout, en fait, quand je disais multifacteur, c'est un bon exemple, c'est qui a vu sa situation administrative se débloquer aussi au niveau de la préfecture, parce que nous, on a pu lui faire aussi une lettre de soutien, parce qu'en fait, pendant 2 mois, on l'a suivi en formation, et donc on a pu voir toutes les qualités humaines qu'il avait, et donc aussi pouvoir appuyer une candidature sur un titre de séjour. Donc il y a des trucs qui se débloquent au niveau de la cuisine, mais parfois pas que. J'ai aussi d'autres personnes qui se sont pas du tout orientées vers les métiers de la restauration, mais qui juste, en allant dans un lycée pro, certes dans le cadre d'une formation autour de la cuisine, mais en fait, ont vu qu'il y avait des classes où on apprenait la couture, des classes où on apprenait la coiffure. Et par exemple, j'en ai une qui s'orientait vers un CAP coiffure, par exemple, donc vraiment aucun rapport avec la cuisine. Je crois que la façon la plus simple de résumer cette formation, c'est de redonner ou de donner envie d'apprendre et de la curiosité de se former. Que ce soit dans la cuisine, bah très bien parce que c'est notre thématique, mais en fait j'ai envie de dire si c'est pas ça, c'est pas grave en fait, tant qu'on s'est remobilisé, c'est un peu ça l'objectif.
À l'occasion du lancement de la deuxième édition de votre cursus de formation, quels sont les organismes qui ont participé à cette deuxième édition ?
Il y a eu en amont de cette formation-là une phase de recrutement, d'essayer d'aller trouver les personnes qui sont le plus pertinentes pour participer à ce projet. Sachant qu'on cible plutôt des personnes qui ont envie et qui se questionnent sur un projet professionnel dans les métiers de la restauration. Et donc ça, c'est le bâtiment à modeler à Clenay qui a vraiment fait ce travail d'aller à la rencontre des gens, de présenter le projet, d'organiser des ateliers pour pouvoir discuter avec les gens. Donc le bâtiment à modeler, gros partenaire du projet sur la phase de recrutement. Et après, l'entrée donc, dans le chantier école, là, on retrouve donc moi, la basse-cour, pour le côté alimentation durable. Et il y a aussi l'organisme de formation, donc le Greta, qui lui porte la partie plutôt technique, avec un formateur cuisine qui habituellement intervient en CAP cuisine, mais qui là, du coup, est mobilisé la moitié de la formation sur vraiment l'apprentissage des gestes techniques, des normes d'hygiène, de tout ça, vraiment les bases du CAP. Et le dernier partenaire, c'est le lycée des métiers Louis Guillou, puisque c'est au sein de ce lycée-là, à Rennes, où en fait il y a les cuisines d'apprentissage, et donc les stagiaires sont la moitié du temps au lycée, et l'autre moitié à la basse-cour.
Et du coup, est-ce que le projet, il a été créé avant le partenariat entre les organismes, ou c'est le partenariat qui a fait créer le projet ?
C'est même encore autre chose, c'est l'opportunité d'un appel à projet de l'État. Donc en fait, il y a eu aussi de l'argent qui a été mis sur la table pour encourager les tiers-lieux et les organismes de formation à se rapprocher. Je pense que l'État avait un peu l'intuition qu'il pouvait jaillir de jolies choses de ces partenariats-là. Après, c'est un appel à projet qui est national et donc en local, il y a des consortiums, on appelle ça, qui se sont formés. Et nous, c'est dans ce cadre-là, en fait, comme il y avait de l'argent qui a été mis sur la table, il y avait possibilité de rémunérer du temps de travail. Et donc, on est allé toquer à la porte de l'organisme de formation. Et ça a créé ça comme ça, quoi. Donc, je dirais que c'est le financement qui a permis le partenariat, qui a permis le projet.
Comment le projet est financé ?
Alors, elle est financée par un dispositif de la région Bretagne qui s'appelle la Prépa Avenir et un cofinancement de la ville de Rennes au titre de l'emploi formation. Donc, on a pu monter ça grâce à ces deux financeurs publics. Et ensuite, il y a une partie en fait, de cofinancement qui est apportée par la guinguette de la basse-cour. En fait, la guinguette achète toutes les matières premières des ateliers cuisine. Donc ça, ça a permis de le sortir du budget. Les stagiaires cuisinent au lycée et ensuite une partie d'entre eux vient revendre à la basse-cour, aux clients de la basse-cour, les plats qu'ils ont préparés. Et en fait, les recettes générées permettent d'alimenter en partie le projet. Donc il y a un peu ces trois sources de financement, la région, la ville et la basse-cour.
Donc c'est une formation qui propose de découvrir toutes les étapes du champ à l'assiette. À aucun moment dans le communiqué de presse, on ne peut lire le mot biologique. Vous ne parlez pas d'agriculture biologique, mais seulement durable. Pourquoi ?
Bio, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrants chimiques ajoutés lors de la production. C'est important, en tout cas, quand on parle de durabilité. Mais en fait, la question de la saisonnalité, la question de la proximité des circuits d'approvisionnement, la question du rapport à la biodiversité, à la préservation de l'eau. En fait, c'est aussi plein d'éléments qui permettent de s'insérer dans ce qu'on appelle justement l'agriculture et l'alimentation durable. Par exemple, ce qu'on voit avec les stagiaires, j'en ai parlé un peu, mais sur l'empreinte carbone de nos aliments, entre une alimentation végétale et une alimentation carnée, par exemple. C'est aussi une manière de jouer sur la durabilité de ton alimentation. Et l'agriculture biologique n'a rien à voir là-dedans. Donc en fait, on ne parle pas d'agriculture biologique parce que ça s'insère dans ce truc un peu plus global. Mais ça en fait partie, mais pas que. Par exemple, on parle aussi du compostage des déchets alimentaires. Donc ça, c'est aussi une manière de valoriser tous les déchets qui sont produits par la formation. Ça aussi, ça s'insère dans la durabilité.
Oui, donc c'est juste plus large en fait que simplement le bio, c'est ça ?
Tout à fait.
Terminé, qu'est-ce que tu imagines pour la suite, toi et du coup les autres organismes ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions pour une suite d'un programme l'année prochaine ou...
Alors, les financements qu'on a eus, c'était pour 2 ans, enfin pour 2 sessions. Donc là, on va finir déjà celle qu'on a sur les rails. Idéalement, on aimerait beaucoup pouvoir poursuivre d'une manière ou de l'autre. Après, on est dans un contexte économique qui est très complexe, que ce soit les régions qui ont vu des baisses dans leurs subventions, que ce soit le secteur de la formation de manière générale qui a eu beaucoup de coupes aussi dans les financements publics alloués. Donc ça pose plein de questions sur typiquement ces dispositifs qui mêlent à la fois environnement et politique sociale d'insertion, qui sont clairement des dispositifs qui sont menacés aujourd'hui. Donc on a envie de poursuivre, il faut encore qu'on arrive à trouver un biais de le faire financer. On a deux, trois idées là, mais on ne peut pas en parler pour le moment parce qu'il n'y a rien qui est sûr encore. Mais en tout cas, il y a la volonté de pérenniser ce dispositif au moins une fois par an, ça on aimerait beaucoup. Probablement sur un format plus allégé. 2 mois, c'est super, c'est une aventure humaine qui est hyper riche, mais c'est aussi très onéreux. Donc à voir comment est-ce qu'aussi on arrive à avoir un truc qui est peut-être un petit peu moins long et donc aussi moins cher, tout en restant aussi pertinent dans la durée de l'accompagnement, quoi.
Bien, on espère que vous allez pouvoir pérenniser ce projet Cuisine Durable. Merci Maud, je le rappelle, tu es chargée de projet social à la basse-cour.
Merci.
Merci à Manon pour cette interview et à Maud d'avoir accepté notre invitation. Si vous désirez goûter les talents des stagiaires de cette seconde promotion, rendez-vous le vendredi 3 juillet à la basse-cour. Avec les fortes chaleurs et les pluies récentes, certaines cultures céréalières ont poussé bien vite cette année, vous l'avez peut-être vu autour de chez vous. Mais il n'y a pas qu'aux abords des champs que l'on se questionne sur l'agriculture. Nina, tu viens nous parler d'un événement collectif qui s'empare de ces questions.
Quel est le point commun entre un tracteur en bois peint en bleu et une machine de binage construite par la paysanne qui l'utilise ? Eh bien, les deux proposent un certain regard sur la technologie agricole et les deux font partie de l'exposition Hors Sol qui débutera demain soir, jeudi 11 juin, aux Ateliers du Vent. Dans cette exposition, pas de frise chronologique ni de retour sur les grandes inventions qui ont marqué l'agriculture. L'expo entend plutôt proposer un regard critique sur la technologie agricole d'hier et d'aujourd'hui. Le propos est politique, mais il est aussi artistique. Certaines œuvres, photos, audio, vidéos, parlent pour elles-mêmes, donnant simplement à voir le cocasse de technologies agricoles de plus en plus sophistiquées. Le but de l'exposition, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ida Guibert, co-commissaire de l'expo, n'est pas de s'en tenir à une posture politique acharnée. C'est plutôt de proposer un patchwork d'œuvres d'architectes, de paysans-paysannes, d'artistes qui résonnent entre elles et interrogent les fantasmes fermiers.
Les fantasmes fermiers ?
Oui, moi aussi j'ai dû questionner Ida Guibert sur cette expression. Eh bien, les fantasmes fermiers, c'est ce que le grand public s'imagine lorsqu'ils pensent aux fermes d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est ce sujet autour duquel les Ateliers du Vent souhaitent interpeller les visiteurs et les visiteuses de l'exposition.
Et plusieurs événements sont prévus pour accompagner le lancement de l'exposition.
Oui, demain soir, jeudi 11 juin à 18h, ce sera le vernissage de l'expo aux Ateliers du Vent. Et dimanche, c'est une sélection de courts-métrages qui vous sera proposée par l'équipe de curation de l'expo au cinéma L'Arvor. Au programme, trois courts-métrages. Un film de 1979 tourné en Bretagne dans un style ethnographique. Il vous donnera à voir concrètement comment Maxime, éleveur de porcs, s'endette pour augmenter le nombre de ses bêtes. On le voit trimer toute la journée et craindre la vérole et la maladie. On assiste aussi à son incompréhension face aux produits qu'il doit utiliser sur ses bêtes et surtout face à un quotidien qui lui échappe. C'est un documentaire aux couleurs chaudes entremêlées de moments oniriques plutôt sombres. Et puis il y aura deux films contemporains. Là, on rentre dans le dur des transformations techno-capitalistiques du monde agricole. On plonge dans une serre multiconnectée, mais aussi dans le circuit d'approvisionnement alimentaire. Machines, robots, automatisation, caméras. Le pari de ce grand balai technologique semble être d'éloigner le plus possible les humains de ces espaces. Le réalisateur en fait ressortir un certain esthétisme, certes, mais qui n'enlève rien au caractère délétère de ces infrastructures.
Ça se passera donc ce dimanche à 18h à l'Arvor. L'entrée est payante et la projection durera 1h30. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Maud d'avoir été notre invitée et à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission. Merci Alex et Nina. Et merci à Pierre Maël pour la technique aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez la réécouter, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter le lendemain en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Merci de votre écoute et bonne journée à vous.